Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Tout pile sur RMC, bonsoir à tous, soyez bienvenus, c'est l'Intégral Sport, on est ensemble jusqu'à 20h avec le grand, non pas seulement par la taille mais aussi par le talent, Stéphane Brun à mes côtés. Salut Stéphane.
Salut Benoît, salut tout le monde.
Comment ça va, un peu de basket aujourd'hui?
Un peu de basket, on va revenir sur le
sport. Non, toi, perso.
Ah t'as moi, oui, un peu de basket, écoute, une fois tous les 6 mois je joue au basket, je suis parti à la Woodstock.
Ah ouais, c'est vraiment ton sport.
C'est vrai, alors, le tennis a dépassé le basket. Hein. Ouais. Je fais plus de temps à tennis que de temps en temps, tu sais. Et puis c'est comme le vélo. 6 mois sans toucher un ballon, je reviens, ouais. ça filoche.
Quoi. On a la preuve par une vidéo, il sait encore dunker. Ça, c'est beau.
C'est beau, ça. Ah, bravo, à 42 ans, je dunk aussi bien que quand j'en avais 25.
Voilà. Je sais pas comment on peut le prendre, mais ouais, le pire, c'est que c'est vrai. Alors, Stephen, au menu ce soir, tu l'as dit, il y aura du basket à 19h45. On va revenir sur le maintien en Betclic Elite de l'Élan Béarnais, mais le menu est copieux. On va démarrer dans une seconde par l'équipe de France féminine, veille de demi-finale à l'Euro, les Bleus affrontent l'Allemagne demain soir. On va retrouver Jeannot Rességuier pour toutes les dernières infos dans une seconde. À 18h15, ça y est, c'est officiel, le Stade Rennais a lâché l'un des éléments les plus prometteurs de son centre de formation, Mathis Tell, capitaine de l'équipe de France U17 qui rejoint le Bayern Munich pour à peu près 30 millions d'euros. Supporters Rennais, on vous attend au 32-16. On aura un invité à 18h30, le nouveau défenseur lillois Hakim Zeladka, pas mal de sujets à aborder avec lui, les ambitions du LOSC cette saison, sa relation avec Paulo Fonseca, le nouvel entraîneur portugais de Lille, ou encore ses ambitions perso avec la sélection algérienne. Et puis à 18h45, le Mercato Show, c'est officiel, Stephen, Nordi Mukiele est parisien jusqu'en 2027. Voilà, on en parlera avec vous, supporters du PSG, on vous attend aussi au 32-16. Et puis à 19h, grande page olympique à 2 ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture, billetterie, carte des épreuves, prochaines échéances, tous ces sujets seront abordés avec Mickaël Aloisio, porte-parole Paris 2024. C'est parti pour l'intégral. Et pas le temps de souffler, mon petit Stephen, pour les joueuses de Corinne Diacre. 4 jours après leur victoire face aux Pays-Bas en prolongation, les Françaises affrontent les Allemandes demain soir en demi-finale de l'Euro. Un seul objectif, atteindre enfin une finale internationale. Ce serait la première fois de leur histoire. On va en parler avec Jeannot Rességuier qui est déjà en Angleterre. Salut Jeannot.
Oui, bonjour tout le monde.
Salut Jeannot.
Salut Benoît. Ouais, je suis resté ce coup-ci, j'ai évité les allers-retours.
Ah ouais, ouais, parce que...
Surtout les grèves.
Parce que t'apprécies la nourriture britannique, non, rien à voir.
Ah oh non, strictement rien.
C'est cata la nourriture là-bas, Jeannot, non?
Tu fais un gros breakfast et tout va bien.
Ah. Voilà, Jeannot, je vois bien.
Breakfast, sausages, omelette.
Voilà, mais après le sûr, c'est le resto italien, quoi. Voilà, il y en a partout.
Ah oui. Ça c'est de la triche. Ça c'est de la triche, Jeannot.
Non, c'est l'expérience.
Ouais, c'est vrai, c'est une façon de voir les choses. Alors, Jeannot, on le disait, ça y est, ce plafond de verre des quarts de finale est brisé. On rappelle que ça faisait 10 ans que l'équipe de France s'arrêtait là dans toutes les compétitions, que ce soit Jeux Olympiques, Euro ou Coupe du Monde. Ça y est, elles sont dans le dernier carré face à l'Allemagne. Et les esprits sont vraiment tournés sur ce match. Ça y est, là, on a pour seul objectif d'atteindre enfin une finale internationale.
Oui, on a vu un peu les images sur rmcsport.fr dans les réseaux sociaux de la fête dans le vestiaire à l'issue de la qualif face aux Pays-Bas. Ensuite, elles sont rentrées dans leur camp de base avec un dîner où ça a été plutôt soft, et donc elles sont passées à autre chose. C'est-à-dire qu'il fallait faire vite parce qu'il y a 48 heures de moins de récupération par rapport aux Allemandes. On a pu assister à HB de la Zouche, leur camp de base qu'elles ont quitté d'ailleurs tout à l'heure à la mi-journée définitivement. Récupération, décrassage, soins, bref, tout faire pour que justement hier à huis clos elles puissent déjà retravailler ce qu'elles ont fait et qu'elles puissent travailler là en ce moment même ici au MK Stadium de Milton Keynes pour justement repérer un peu les lieux. Je vous propose d'écouter Corinne Diacre en conférence de presse tout à l'heure où on lui a demandé, ou on a essayé en tout cas de savoir qu'est-ce qui s'était passé concrètement dans la récupération depuis la victoire face aux Pays-Bas.
La récupération à J+1, une séance d'entraînement où vous étiez présent. Hier, une séance très légère, et quand on s'entraîne pas, effectivement, beaucoup de récupération, du sommeil, de la vidéo. On n'a rien inventé de plus que ce que l'on fait d'habitude. Et on est serein. Le groupe vit bien. On a, comme on l'a dit à l'instant, on n'a pas changé nos habitudes. On a fait la même chose que ce que l'on a fait sur le premier tour, puisqu'on avait 3 jours aussi entre deux matchs. Il n'y a pas d'impatience. Il ne faut absolument pas jouer le match avant l'heure. Ça, c'est sûr. Maintenant, à nous de bien préparer ce match encore d'ici demain. Déjà de faire connaissance aussi avec ce lieu que l'on ne connaît pas. Tout ça va se mettre en place petit à petit.
Voilà, on la sent concentrée, on la sent peut-être un peu tendue. Hein, Corindia, qu'est-ce que t'en penses?
Bon, je vois pas une grande différence entre la Corindia d'avant compète et celle de milieu de compète. Jeannot nous parlait de scènes de joie. Je suis pas sûr que Corindia, ça a été la première à faire à la fête, parce que malgré tout, je pense qu'elle a envie de plus. Elle a envie de plus, Corindia. Il y a cette satisfaction.
Ah bah, depuis le début, elle a dit, moi, je vise la finale.
Exactement. Il y a cette satisfaction, cette chape de plomb qui a été enlevée de cette barrière psychologique. Tu l'as dit en quart de finale. Maintenant, je pense qu'elles ont envie d'aller plus loin, les Allemandes. Et puis je trouve ça bien qu'il y ait moins de jours, parce que ça permet de moins cogiter, en fait. Ouais. Tu vois, ça s'enchaîne
parce
vite.
Parce que à la suite.
Parce que les Allemandes, là-bas.
Il y avait un jour de plus.
Un jour de plus pour pouvoir penser à ce match-là. Deux, 48 heures. Deux jours de plus pour pouvoir penser à cette demi-finale-là, à se refaire le match 50 fois. Et c'est jamais bon quand tu refais le match. Et j'aime bien cette philosophie de on change rien. Parce que ça reste un match de foot. Certes, une demi-finale. Ne pas changer les habitudes, ne pas changer les horaires d'entraînement, ne pas changer les séances vidéo. Au moins, tu fais croire et tu fais penser aux joueuses que c'est pas un match comme un autre, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On va pas tout bouleverser parce que c'est une demi-finale. Et en général, il y a beaucoup de coachs qui font ça, qui changent rien aux habitudes.
Alors évidemment, elle a été titillée par notre Jeannot Rességuier. Elle lui a répondu un peu sèchement. Écoute.
Question pour toutes les deux. De quelle manière avez-vous préparé cette demi-finale en sachant qu'il y a cette histoire de 48 heures de récupération en moins pour l'équipe de France? Est-ce qu'il a fallu beaucoup travailler la récupération, beaucoup de soins, beaucoup de massages, et puis de se tourner vraiment vers l'objectif de sportif dans la discussion, dans la vidéo peut-être? Merci.
Oui, c'est bien. Vous auriez pu intégrer le staff de l'équipe de France. C'est exactement ce que l'on a fait ces 48 dernières heures.
Bon, voilà, c'est cool. Il y a un poste qui t'attend, cool. Jeannot.
Bah, quand t'as pratiqué Raymond Domenech, il n'y a plus rien qui peut t'arriver. Donc, je suis blindé. Mais c'est vrai qu'on essaie un petit peu de la détendre. Mais les veilles de match, c'est compliqué, quoi.
Ouais, c'est un peu difficile. Après, on comprend forcément que l'échéance est importante pour cette équipe de France. Quel est l'état de forme général des troupes, justement? On l'a dit, il y aura 48 heures de moins de récupération, et surtout, il y a eu cette prolongation disputée. Ça a été très dur jusqu'à la fin pour éliminer les Pays-Bas, Jeannot.
Écoute, tout va bien, apparemment. Des infos qui nous sont remontées, ça a l'air d'aller par rapport à, par exemple, l'Allemagne. Pas de cas de Covid positif, puisque Clara Bull, la joueuse du Bayern, elle ne pourra pas disputer le match contre l'équipe de France, puisqu'elle a été testée positive. Donc là-dessus, pas de souci. Les 22 sont à l'entraînement en ce moment. Elles ont travaillé à huis clos hier. Elles vont travailler encore à huis clos. Mais la spécialité, bien évidemment, c'est de pas faire de mise en place, ou en tout cas de brouiller les pistes pour Corinne Diacre, parce qu'elle ne veut que rien ne fuite par rapport à la composition probable de l'équipe. Et puis quand on entend Wendy Renard s'exprimer, on a le sentiment que voilà, il y a assez d'expérience chez les cadres, et surtout chez la capitaine de l'équipe de France, pour repositionner tout ça et relancer un petit peu, on va dire, cette équipe là vers un deuxième défi. Il y avait le plafond de verre en quart de finale. Là, c'est une équipe que dans l'histoire du football féminin français, l'Allemagne, la France ne les a jamais battues. Donc deuxième défi dans l'histoire du football français en général, si on va plus loin, Séville, si on va plus loin, Guadalajara. Mais si. Et il y a eu cette histoire de 2016 à Marseille, où là, eh bien, on a reparlé d'une équipe de France, même secouée à l'époque, souvenez-vous, qui, avec le doublé de Griezmann, avait réussi à se qualifier pour la finale. Eh bien, il faut se servir de tout ça. On a essayé, en tout cas, de comprendre s'il y avait ça dans l'esprit des joueuses. Apparemment, dans la tête de la capitaine, oui.
Ça va être un combat demain. C'est une grande nation. Ça va se jouer à l'efficacité, forcément. Faut rien changer. C'est sûr que c'est une grande nation et que par le passé, on a toujours dit la supériorité allemande. Après, il n'y a pas de complexe à avoir. On est en demi-finale. Et je pense qu'elles sont pas non plus contentes de nous jouer. Donc ce sera à nous d'être ensemble, comme on l'a fait depuis le début de cette compétition, et d'être déterminé, de régler les deux, trois choses qui n'ont pas été, et être encore plus efficace. Mais France-Allemagne, c'est toujours des gros matchs et c'est tout ce qu'on aime. Donc il faudrait être au rendez-vous et être costaud.
Tu l'as dit tout à l'heure, hein, Benoît, jamais une finale pour le football féminin en tournoi international. L'Allemagne, 11 participations à l'Euro, 8 victoires en championnat d'Europe. La dernière remonte à 2013, un parcours assez impressionnant, hein, avec 0 but encaissé. C'est la seule nation, même si elle a montré qu'elle pouvait souffrir sur la première période face à l'Autriche, avec notamment 3 frappes sur les montants. Donc voilà, elles se connaissent parfaitement. Il y a la génération d'expérience d'un côté comme de l'autre, quand je pense par exemple exemple à Alex Pop d'un côté, l'attaquante, la buteuse allemande, et Wendy Renard de l'autre. Et puis ensuite, il y a la jeune génération montante chez les Allemandes et avec l'équipe de France et le titre de 2019 de champion d'Europe dans cette catégorie, donc de U19. Donc ça veut dire quelque part que tout le monde se connaît parfaitement bien et qu'on peut avoir le même style de match que face aux Pays-Bas.
Tu crois que ça compte, toi, Stephen, ces histoires de séries, d'historique, d'expérience? Est-ce que ça a eu vraiment une importance avant d'aborder la demi-finale, ou est-ce que tu n'en tiens pas trop compte? Tu tiens plutôt compte de la forme du moment, de la récupération et
moi, je suis toujours des forces en présence. Je suis toujours dans cet état d'esprit de voir ce qu'on produit comme jeu, notre niveau actuel, plutôt que de se ressasser les défaites qu'on a eues par le passé. Quand ce sont systématiquement les mêmes joueuses qui s'affrontent et les mêmes équipes, peut-être qu'il peut y avoir un passé qui est un petit peu lourd. Là, Jeannot parlait de nouvelle génération allemande. Nous aussi, on a quand même quelques joueuses plutôt jeunes qui doivent faire fi de toutes ces considérations du passé.
Nous, on joue bien. On a bien joué contre
le Bélin. Alors, il y a des choses à corriger, parce que tu te fais peur malgré tout en allant en prolongation contre les Pays-Bas. Tu tombes sur une gardienne.
Parce que tu manques d'efficacité.
Exactement. Oui, voilà, le problème, tu manques d'efficacité. Tu as une gardienne qui est on fire en face aussi, qui fait des arrêts aussi, fantastiques, ouais. Des joueuses qui sauvent des buts sur leur ligne. Donc il va falloir parce que des occasions, on va s'en procurer, on s'en est procuré depuis le début de cette compétition. Il va falloir justement être efficace, et sur les grands rendez-vous comme ça, demi-finale, finale, à un moment donné, une occasion, deux occasions, il faut mettre une filoche, parce que tu peux te faire attraper après.
18h11 sur RMC l'Intégral Sport. On est avec Stephen Brun et Jeannot Rességuier. Évidemment, on parle déjà de France-Allemagne, demi-finale de l'Euro féminin à suivre demain soir dès 21h, avant match dès 20h, évidemment sur RMC dans l'after match. Jeannot, on voulait dresser le portrait également d'une joueuse de l'équipe de France. Un portrait particulier ce soir, celui de Clara Matteo, qui est la seule joueuse tricolore qui ne vit pas uniquement du foot, Jeannot.
Oui, tout à fait. C'est une jeune diplômée. Elle a été diplômée polytechnique à Paris-Saclay. C'est l'attaquante du Paris FC. Elle joue au milieu de terrain en équipe de France. Clara Matteo, qui est passée d'abord par un stage dans le cadre de son cursus, puis un contrat en CDI depuis mars 2021 avec Arkana, qui est le sponsor, le naming du championnat de France de football féminin chez Arkana. Tout simplement une mission en lien, on va dire, avec le business développement sur le marché du sport. Elle travaille à temps partiel, à 40%. Son entreprise aménage son emploi du temps. Et vous allez l'entendre, elle reste quelqu'un de très timide, avec tout simplement le fait qu'elle ne met pas souvent l'accent sur le fait qu'elle joue au football, ce qui est assez, Benoît, surprenant, hein, puisque Anthony Reich a rencontré un des responsables de la société Arkema.
Dans d'autres équipes, elle est arrivée discrètement, mais une fois qu'elle est intégrée, elle est extrêmement à l'aise, elle va vraiment chercher à être performante et à faire son boulot. Elle est très rigoureuse, elle est extrêmement positive, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, ça se voit, et du coup c'est assez communicant. Elle est très humble, son boulot est très important pour elle. Il y a peu, là, quand elle démarrait, quand elle faisait ses premiers calls clients, elle était stressée. Je lui ai dit, mais Clara, quand t'as fait tes premières sélections, enfin, t'as géré, elle m'avait dit, ouais, mais ça, je sais faire.
Et oui, forcément, elle a deux vies parallèles. Stephen, ce qui est assez marrant dans le portrait que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr, c'est que aussi son patron doit dire François parfois Tanguy, à certains clients, ah bah désolé Clara, la semaine prochaine elle est à Clairefontaine. Donc tu vois, elle peut pas vous répondre, on va gérer le dossier parce que.
Ouais, non mais c'est sympa. Je trouve que moi j'aime bien ces profils particuliers qui dénotent un petit peu aujourd'hui avec le foot un petit peu business, parce que chez les filles aujourd'hui le business est clairement rentré en compte. Ça me plaît bien. Ça permet aussi d'avoir un petit peu de recul, de voir ce qui se fait ailleurs que dans le foot, de côtoyer des gens lambda, d'être dans la vie. Et puis j'aime bien ce côté un petit peu timide, qui tire pas la couverture à elle, qui pense toujours à l'équipe, alors que elle est considérée comme une super sub, hein, dans cette équipe de France. Elle a fait quoi, deux passes d'aise contre la Belgique et l'Islande. C'est elle qui fait la passe à Diani, qui amène le penalty contre.
On se posait la question de savoir si elle allait être titulaire même. Hein.
Je sais pas, parce que il me semble que Corinne Diacre a souvent vanté les mérites de son banc et de ses remplaçantes. Qui permettent de faire la différence sur des fins de rencontre. Donc je suis pas sûr que Corinne Diacre change et bouleverse tout, parce que une rencontre, on l'a bien vu contre les Pays-Bas, ça peut jouer sur la fin. Et quand t'as de la fraîcheur comme ça et du talent comme Clara Matteo, donc c'est bénéfique pour une sélectionneuse. Mais j'aime beaucoup ces profils-là typiques, qui est pas déconnecté avec la vraie vie et qui a les pieds sur terre, parce que j'ai cru qu'elle avait été contactée par le Bayern de Munich et qu'elle préfère rester au PFC pour découvrir la Ligue des Champions à la rentrée. Donc tu vois, Bayern Munich qui t'appelle pour quitter le PFC, ça peut quand même vite faire tourner la tête. Moi je reste à Paris.
Et toi, c'est vrai que quand on évoque les joueuses sorties du banc, Selma Bacha, Clara Matteo, même si Clara Matteo a eu deux titularisations, c'est dans ce coaching là justement que Corinne Diacre a fait la différence face aux Pays-Bas. Et quand on lui pose la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qui est mieux, est-ce que c'est mieux de les titulariser ou de les garder sur le banc, elle est un peu gênée pour donner cette réponse, parce qu'elle sait que dans les deux cas elle peut avoir un vrai plus, mais avec Clara Matteo, c'est cette progression qu'elle a eue, et le fait que encore une fois en équipe de France elle joue au milieu, elle joue pas attaquante alors qu'elle a marqué 13 buts dans le championnat la saison dernière, donc elle prend un peu plus de recul et elle a surtout cette lisibilité du jeu offensif qui est intéressante au moment où l'équipe adverse et commence à fatiguer. C'est ça qui a permis aussi de faire la différence au-delà de l'entrée de Selma Bacha contre les Pays-Bas.
Excellente vision de jeu, belle passeuse en tout cas,
passe entre les lignes, elle sort bien les coups,
de bons ballons.
Faut qu'elle tente plus, faut qu'elle essaye plus, il faut qu'elle claque un but, et peut-être ça sera demain.
Jeannot, évidemment le match sera demain 21h sur RMC. En un mot, Jeannot, la première demi-finale oppose ce soir l'Angleterre à la Suède. Là aussi, ce sont deux formations complètement différentes. Évidemment, l'Angleterre boostée par son public et son envie de performer. La Suède, c'est plutôt l'expérience. Hein. C'est un peu un duel comme ça, une opposition de style entre les deux nations ce soir.
Oui, après c'est vrai que la Suède a marqué les esprits et l'histoire du football féminin. Pour ce qui est de l'Angleterre, c'est tout simplement l'envie de faire comme les garçons et encore mieux, c'est-à-dire d'aller à Wembley en finale. Ça c'est l'objectif depuis le début, et surtout de la gagner.
Ah oui.
Parce qu'il y a la mare un petit peu en Angleterre quand on parle de la sélection nationale, quand on parle des Trois Lions ou des Trois Lions, c'est simplement de se dire à un moment donné que le football anglais, puisqu'ils le disent, football it's coming home. Donc ça veut dire que quand on chante ça, on se moque un petit peu de l'histoire et du passé, puisque depuis 66, on n'a jamais rien ramené. Là, avec l'équipe de féminine d'Angleterre, ils ont envie de gagner un titre. Donc c'est pour ça aussi qu'ils sont allés chercher Wegman, qui a été champion d'Europe avec les Pays-Bas. Et c'est pour cette raison-là aussi que, eh bien, face à la Suède, c'est un élément, un moment déterminant, parce que à la limite, j'ai l'impression que pour certains Anglais, être éliminé en demi-finale serait moins grave que de perdre la finale à Wembley.
Il y a le traumatisme de l'Euro,
voilà,
évidemment.
Exactement. Après, quand on voit le parcours de l'Angleterre et le parcours de la Suède, la Suède a l'expérience, mais l'Angleterre semble assez costaud, et surtout la différence, c'est le réalisme devant le but.
Merci Jeannot, on te retrouve demain, 21h, France-Allemagne, ça c'est de l'affiche quand même, demi-finale de l'Euro féminin, RMC qui est la radio officielle de cette compétition, évidemment. Merci Jeannot. Bonne
Salut
soirée
tout le monde.
Et à demain. 18h17 sur RMC dans un instant. On parle du Stade Rennais qui a laissé échapper peut-être l'un de ses joueurs les plus prometteurs, Mathys Tel, qui a rejoint le Bayern Munich pour un peu moins de 30 millions d'euros. Tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h20 sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 20h avec Stephen Brun dans un quart d'heure. Hakim Zlatka, nouveau défenseur lillois, sera notre invité. Les objectifs du LOSC cette saison, la méthode Paolo Fonseca, ses ambitions personnelles avec la sélection algérienne. On va aborder tous ces sujets. Mais on vous le disait, le Stade Rennais a fini par céder alors que le club souhaitait conserver et surtout utiliser le prometteur Mathys Tel la saison prochaine. Rennes a finalement accepté l'offre du Bayern Munich qui a fait de l'attaquant français sa priorité du mercato. On en parle avec Sarah Griffon, journaliste à RMC Sport. Salut Sarah.
Salut à tous.
Salut Sarah.
C'est officiel. Mathys Tel est un joueur bavarois.
Oui, malgré plusieurs offres refusées du Stade Rennais qui a finalement cédé. Il faut dire que le Bayern Munich a cassé la tirelire pour s'offrir les services de l'une des plus grandes promesses de la génération 2005. 28,5 millions d'euros, bonus compris tout de même. C'est tout simplement un record. À 17 ans, il est devenu le joueur mineur le plus cher de l'histoire. Un pari osé tout de même de la part du club munichois qui a donc signé Mathys Tel pour 5 ans. Alors qu'il n'a joué que 7 matchs en Ligue 1 sans avoir été titularisé. Au total et toutes compétitions confondues, on comptabilise à peine 90 minutes de jeu avec le maillot rennais. La première fois qu'il foulait la pelouse du championnat français, c'était face à Brest. Il n'avait que 16 ans, 3 mois et 18 jours. C'est précis, vous allez me dire, mais ça a son importance puisque ce jour-là, il battait le record de précocité d'une entrée en jeu en Ligue 1 qui était auparavant détenue par Eduardo Camavinga. Mathis Tell poursuivra donc sa progression, son ascension de l'autre côté du Rhin où déjà Nagelsmann a de grands espoirs et de grandes attentes envers sa recrue. Il disait ce week-end, il pourrait être un jour, l'une des meilleures attaquants au monde. Je le vois capable d'inscrire 40 buts en une saison dans le futur. C'est notre plan. En tout cas, s'il marque 10 buts déjà cette saison, nous serons très contents. Les comparaisons avec un certain Kylian Mbappé ne devraient pas être longues à fuser.
Évidemment. Merci Sarah Griffon. On va l'écouter d'ailleurs, Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich, qui parle de Mathis Tell, sa nouvelle recrue offensive.
Un très jeune joueur talentueux. Il peut évoluer à plusieurs postes, avant-centre, ailier. Il est très rapide, fort avec son corps. Il peut bien défendre le ballon d'eau au but adverse. Un jour, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants. Et j'ai le sentiment qu'il sera capable de marquer 40 buts par saison. Mais pour sa première saison, je serai heureux avec 10 buts.
Évidemment, on n'a pas misé comme ça n'importe comment au Bayern. On l'a scouté, comme on dit. D'ailleurs, c'était un épisode de scouting, notre podcast dédié aux talents français. C'était le premier épisode que l'on a traité. Vous pouvez retrouver ça sur les applis d'RMC. Stephen, Mathis Tell était identifié. C'est le capitaine de l'équipe de France U17 qui est championne d'Europe.
Oui.
Après, qu'est-ce que tu penses d'un tel transfert, quasiment 30 millions d'euros pour un joueur qui a tout juste 17 ans, qui n'a disputé que 49 minutes de Ligue 1. Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce que tu te dis, vu le montant, Rennes ne pouvait pas refuser, c'est comme ça que tu vois les choses ?
Alors ça, clairement. 30 millions pour un garçon qui a fait à peine 2 ans à Rennes, je pense que pour le Stade Rennais, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, ça raconte un peu ce qui est devenu le foot d'aujourd'hui, Benoît. La foire aux jeunes joueurs programmés pour aller très haut, la stratégie opportuniste des grands clubs.
Est-ce que ça te fait penser à ton sport où on scoute justement les futurs pépites à la Wembanyama?
Un petit peu. Aujourd'hui, au basket, il y a beaucoup de garçons qui sont draftés très tôt en NBA, qui partent dans la grande ligue et qui parfois se perdent parce qu'ils n'ont pas fait grand chose aujourd'hui dans le championnat français ou sur des coupes d'Europe. On me parle Dembélé, Camavinga, les anciens Rennais sont partis. Oui, mais Dembélé, il a marché sur la Ligue 1 pendant une saison et Camavinga, il a fait 2 saisons pleines en Ligue 1. Là, c'est un garçon qui a à peine joué, Sarah le disait, 90 minutes. Alors oui, il y a du potentiel. Oui, on a vu des flashs comme ça de talent. Moi, j'aime bien voir des garçons s'imposer dans un championnat sur une saison et qui peuvent partir après, mais j'aime bien avoir une saison complète en Ligue 1.
Ils marquent au moins leur club formateur.
Exactement. Et je trouve ça triste pour le Stade Rennais d'avoir accueilli un garçon comme ça, passé par Aubervilliers, Montrouge, l'avoir formé et le pas voir au Roizen Park pendant une saison. Ça, c'est aussi la fierté des dirigeants, des formateurs. Après, ça dit aussi beaucoup de choses. Ça dit aussi la qualité de la formation française, la qualité de la formation du Stade Rennais également. Donc ça aussi, c'est le point positif. Mais les conditions, pour moi, sont malgré tout exceptionnelles. Mmh. Je ne suis pas sûr que ça arrive chaque été pour un jeune Français. C'est un cas particulier. Maintenant, attention, parce qu'on a vu des exemples. Et le plus récemment, et ça concerne le Bayern Munich, le petit Kouassi, qui aurait pu espérer des minutes au Paris Saint-Germain et qui est parti et qui aujourd'hui n'est même pas sûr parce qu'ils ont pris tellement de défenseurs, il n'est même pas sûr de jouer.
Et qui cherche d'ailleurs un point de chute
l'année prochaine. Kouassi. Après, moi, quand je regarde l'effectif du Bayern, ils ont perdu Lewandowski. Il reste une place vacante pour l'instant puisqu'il n'a pas été remplacé. Aujourd'hui, les numéros 9, c'est Choupo-Moting et Zirky. Alors, donc, est-ce qu'il va peut-être avoir des possibilités là-dessus?
Juste, Stephen, le discours qui lui a été tenu avant d'accueillir Arthur, supporter rennais au Stade de France, au 32-16, le discours qui a été tenu à Mathis Tell, c'est que Hassan Salihamidžić en faisait sa priorité, le directeur sportif.
Il est d'ailleurs en Ille-et-Vilaine.
Et il lui a dit, on recrute Sadio Mané, effectivement, qui est la star de l'attaque désormais bavaroise, mais nous, on veut que tu joues dès cette saison. On va lui donner du temps de jeu, a priori, si tout se passe bien, dès cette saison.
Mais j'espère
on l'intègre
bien.
Vraiment à l'équipe du Bayern Munich. Quoi. Il est là pour jouer, a priori.
J'espère bien qu'il ne joue pas avec l'équipe 2. Quand vous envoyez 30 millions au club français pour débaucher un gamin de 17 ans, c'est pour qu'il fasse partie intégrante de l'équipe et qu'il joue des matchs. Je ne parle pas de titulaire. Après, ça en fait aujourd'hui le joueur le mineur le plus cher de l'histoire. Avant, c'était Jude Bellingham qui est passé de Birmingham à Dortmund. Et là, c'est 30
joueurs que tu apprécies d'ailleurs.
Jude Bellingham, très fort, qui vaut 120 millions maintenant. Voilà. Mais ça fait partie aussi d'une stratégie marketing voilà. économique des clubs, Benoît. Tu prends un garçon à 30 millions à 17 ans et t'es pas à l'abri que dans 4 ans, et ben tu le revends 120 ou 140.
Posons la question à un supporter René, Arthur, au 32-16. Salut Arthur.
Bonsoir à vous, merci de m'accueillir.
Salut Arthur. Bon, quand tu vois le transfert s'officialiser, est-ce que tu as une pointe de regret de te dire je l'aurais même pas vu briller avec le maillot du Stade Rennais en professionnel?
Exactement. Il y a deux visions en fait dans ce transfert. Il y a la vision sportive, voilà, et la vision financière. D'abord la vision financière où on fait une énorme affaire, c'est clair. On peut être fier, comme vous l'avez très bien dit, notre centre de formation ou les dirigeants, les formateurs, les directeurs sportifs, voilà, les présidents. Tout le monde peut être fier de cette vente, de ce garçon qui a très bien évolué dans les sphères jeunes du Stade Rennais. Mais il y a le côté sportif derrière où on a un Bruno Genesio forcément qui l'avait dans ses plans cette année. Il y avait forcément un côté, une pointe d'amertume chez les supporters. Voilà, comme vous l'avez très bien dit aussi avant, que Kamavinga avait fait quand même une saison et demie, voire deux ans, qui était de très bonne facture. On a Ousmane Dembélé qui avait très bien fait aussi son passage au Stade Rennais. Il y avait eu au moins un an et demi à chaque fois pour ces jeunes joueurs, pour évoluer, donner une chance à ces gamins-là de s'exprimer. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la Ligue 1 des talents. Bon, après, voilà, comment ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on voit bien sur tout ce qui va être twittosphère, tout ce qui va être relayé par les médias, qu'il y a franchement de l'amertume chez les Rennais. Il y a même de l'énervement un petit peu de quelque part le laisser partir, parce que voilà, c'est un gros coup tenté quand même par le Bayern, hein, ils se mettent en danger. On sait que Mathis Tel, à cet âge-là, on peut être blindé, certes, avec un bon environnement, mais on est tout de même, voilà, on peut rester jeune très longtemps. On sait que Ousmane Dembélé a eu des difficultés au Barça. Je sais pas, on lui met une pression quand même de 10 buts à atteindre cette saison déjà au Bayern Munich. S'il y arrive, c'est très très fort. Ce serait vraiment un énorme coup pour le Bayern. Mais nous, de notre côté, du point de vue supporter, c'est bien dommage. Mais du point de vue club en lui-même, structure, etc., c'est une très très grande réussite. Et c'est vraiment une belle étoile encore qui part. Et puis voilà, on commence à voir des Rennais en plus briller sur la scène européenne avec des Kamavinga, Dembélé, puis on espère Mathis Tel bientôt. On espère que ce ne sera pas un tel engagé. Vraiment, ce serait vraiment la part des choses.
Arthur, moi j'ai une question pour toi, supporter du Stade Rennais. Est-ce que c'est plus frustrant de voir un garçon partir comme ça, que vous avez quasiment pas aperçu cette année et vous n'avez pas vraiment vu ce qu'il valait, ou de voir un garçon partir après une saison qui a été très bon en Ligue 1? C'est quoi le plus frustrant?
Ah, c'est une bonne question.
Je pense que le plus frustrant, c'est ce cas-là en fait. Parce qu'on s'est dit qu'Amazinga, Dembélé, ces garçons-là ont apporté quelque chose dans le projet.
On les a vus, quoi. Ouais.
Ils ont apporté quelque chose, une plus-value. Ils ont été performants. Ils ont apporté aussi un espoir chez les jeunes de se dire, bah, nous aussi, on peut jouer en équipe 1. Nous aussi, on peut avoir notre place. Donc, voilà, on voit des garçons comme Ablin, Gouchoukou, des garçons comme Diouf. Voilà, même s'il était prêté cette année, Diouf, mais on voit des garçons qui ont la place cette année pour évoluer. Je pense que c'est plus frustrant de voir Mathis Tel partir tout de suite.
Oui, parce que tu as raison. Il y a la vitrine de l'équipe première et l'exemple que tu donnes aux autres jeunes du centre. Et évidemment, à Rennes, on espère que ça ne va pas donner des idées à d'autres d'aller s'engager avec des grosses écuries dès qu'il y a un peu de temps de jeu.
Les Rennais peuvent même se dire, on a Rafinha qui est au Barça, qui est passé à Rennes.
Ouais, c'est vrai. Exactement, qui est passé de Leeds au Barça alors qu'il jouait au Stade Rennais auparavant. Merci Arthur d'être venu au 32-16. 18h29 sur RMC. Un invité dans un instant, Stephen Hakim Zadatka, défenseur algérien du LOSC. Les nouvelles ambitions de Lille cette saison, la méthode Paolo Fonseca. On parle de tout ça dans une minute, à tout de suite.
RMC Intégral Sport,
Benoît Boutron.
18h33 sur RMC l'Intégral Sport jusqu'à 20h, comme tout au long de la semaine, avec Stephen Brun. C'est pas beau ça, Stephen Brun qui vous accompagne.
Et 2B, Boutron Brun.
Ouais, c'est vrai. BNB. Si pas dans un quart d'heure, le Mercato Show, c'est officiel. Nordi Mukiele est un joueur du PSG.
Ah oui.
Jusqu'en 2027. Et voilà.
On n'est pas surpris quand même.
Il a 24 ans. Bah, on le savait, quoi.
Oui.
Ouais, on le savait.
Là, ça y est, il a signé. Il a mis le stylo, il a mis la signature.
C'est le concurrent direct d'Achraf Hakimi. Exactement. NM. Nordi Mukiele.
Oui.
Exactement.
NM.
Et puis à 19h, tiens, une grande page Paris 2024. On est à 2 ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture. Et ouais.
C'est quoi le slogan?
Ah, c'est quoi? Ouvrons grand les jeux. Ouais. En anglais?
Wide open games.
Non, games wide open. Tu n'y arriveras jamais.
Games wide open.
Bref, Michael Alozio, le directeur de cabinet de Paris 2024, sera avec nous. Vous pourrez poser toutes vos questions sur la billetterie, la carte des épreuves, le calendrier. vous saurez tout. 18h34, une nouvelle ère qui s'ouvre au LOSC, 14 mois après le titre de champion de France. Le club nordiste va opérer une révolution après une saison qui, je vous le rappelle, a été achevée à la 10e place de Ligue 1. Pour sauver celle-ci, il y a quand même eu les 8e de finale de Ligue des Champions. Un nouveau coach est arrivé, c'est le Portugais Paulo Fonseca. L'effectif a été renouvelé. Certains héros de 2021 ont quitté le club. On pense à Burak Yılmaz, à Sven Botman ou encore à Zeki Selik. Lille qui a misé sur des joueurs habitués à la Ligue 1, Jonas Martin, Rémi Cabella, Mohamed Bayo ou encore Hakim Zedatka qui est en direct avec nous. Salut Hakim.
Salut, comment ça va?
Bah ça va et toi? Tout se passe bien, j'imagine. Vous êtes en stage à Marbella, donc c'est plutôt cool.
Ouais, super. C'est vrai qu'on est bien là, on est dans un bon cadre. Bon, il fait un petit peu chaud, c'est le climat méditerranéen, mais ça va, on est bien.
Ouais, parce que toi, t'es un mec qui aime les nuages, hein. T'étais à Clermont, tu vas à Lille, t'aimes pas trop le soleil en fait, Hakim.
Bah à la base, je suis du sud, donc climat méditerranéen, je connais. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je monte de plus en plus dans la France, donc là, je pense que j'ai atteint le bout, là.
Ah ouais, là, en Ligue 1, tu peux pas aller plus haut, là. Faut s'arrêter, à un moment,
monsieur.
Hakim, tu as un parcours particulier. Tu découvrais la Ligue 1 l'an passé avec Clermont. Je rappelle que tu as fait une saison aboutie. Tu étais le joueur le plus utilisé par le Clermont Foot. Tu as disputé les 38 journées. Et tu as donc décidé de rejoindre Lille. Un changement de dimension pour toi, c'est comme ça que tu l'expliques?
Ben oui, bien sûr, je pense que j'étais arrivé à la fin d'un cycle avec Clermont. Et voilà, on avait atteint les objectifs sur les deux années qui étaient de monter et de se maintenir. En plus, quand il y a un club comme le LOSC qui vient toquer à la porte, il n'y a même pas à réfléchir. Surtout que à l'époque où on a commencé à discuter, ils étaient champions de France en titre, encore qualifiés en Champions League. Donc c'est plus qu'un tremplin et plus qu'une bonne suite pour moi, donc je suis très content d'être ici.
Alors je disais que tu avais un profil particulier, parce que toi, on le rappelle, tu as connu le monde amateur, hein, tu as même connu le chômage en tant que joueur professionnel, donc vraiment j'imagine que tu savoures d'autant plus l'arrivée dans un club tel que Lille, un club qui a des ambitions européennes.
Hein. Bien sûr, j'ai toujours eu des ambitions sur ces dernières années, mais c'est vrai que là c'est d'autres ambitions. Et tout est fait pour essayer de les atteindre. Moi, je suis arrivé pour ça aussi avec ma mentalité et le peu que je peux apporter à mon échelle. Donc j'espère qu'on va faire une très belle saison et atteindre les sommets.
Est-ce que tu peux nous parler justement du nouveau coach, Paulo Fonseca? Ça s'est fait assez tard, il est arrivé à la fin juin. Je rappelle que c'est un entraîneur portugais qui est passé par le Shakhtar ou encore par la Roma. Comment se sont passés les premiers contacts avec lui? Comment se passent les séances d'entraînement? Est-ce que tu te régales pour l'instant, Hakim?
On se régale parce que c'est beaucoup de jeux, on prend beaucoup de plaisir. Beaucoup de jeux avec ballon, on s'arrête pas de jouer, de faire des choses qu'on aime en tant que footballeur. Donc sur ce point-là, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir. Après, c'est un coach qui a des idées comme d'autres coachs, qui veut jouer d'une certaine manière. Et avec l'arrivée de certaines recrues, etc. On est en train de travailler ça, les automatismes et puis histoire que la mayonnaise prenne pour le début du championnat, c'est notre objectif.
Lui, il prône plutôt un jeu offensif. Toi, ça te correspond bien, parce que c'est vrai que tu joues latéral droit, mais que t'aimes bien aussi te projeter, Hakim.
C'est ça. Ben, c'est vrai que je suis un latéral droit, donc défenseur de base, mais j'aime bien contre-attaquer. J'aime bien attaquer aussi quand on est placé haut. Donc voilà, je pense qu'on aura cette variété dans le jeu. Ça fait partie aussi de ce qu'il veut mettre en place, d'essayer de dominer les matchs, d'avoir le ballon et d'être haut directement. Donc on va essayer de faire ça au maximum.
On le disait, donc le coach a changé, hein, puisque Jocelyn Gourvennec est parti. Le vestiaire, mine de rien, aussi a changé. Il y a moins de joueurs étrangers, départ de Burak Yılmaz, notamment de Zeki Selik. Il y a plus de francophones. Jonas Martin est arrivé, Rémi Cabella. Toi, t'es arrivé avec ton pote Mohamed Bayo. Ça se ressent là aussi dans le vestiaire qu'il y a un renouvellement, il faut recréer des affinités?
Ben personnellement, j'ai pas connu les vestiaires d'avant, mais c'est vrai que sur ce que j'avais vu, il y avait beaucoup plus d'étrangers, on va dire, que maintenant. C'est vrai que le recrutement a été pas mal français, et puis comme vous avez dit, c'est aussi des joueurs qui connaissent pas mal la Ligue 1. Donc après, c'est vrai que pour l'intégration de parler un peu plus français, c'est c'est vrai que ça aide. Après, avec les personnes qui parlent anglais ou d'autres langues, on arrive quand même à se comprendre et c'est pas forcément une barrière. C'est pas forcément une barrière pour nous parce que tout le monde parle avec tout le monde et on essaie de dialoguer tous ensemble. Donc c'est vrai qu'avoir des Français ça aide, mais c'est pas forcément une barrière. La langue c'est pas forcément une barrière avec les autres.
Le coach vous parle en français ou pas encore?
Il a quelques notions en français, mais pour l'instant il nous parle en anglais, dans un anglais fluide qu'on comprend bien. Donc bon. Il y a aussi, pour ceux qui comprennent pas trop, il y a aussi des traducteurs, donc tout le monde comprend et le message il passe très très clairement.
Hakim comeback, c'est ça? Quand tu redescends pas pour descendre, c'est ce qu'il te dit, non?
ouais, entre autres, il y a certaines expressions. Ou alors, il me dit reviens.
Ah, il dit reviens, ça y est, maîtrise.
Bon. Il y a certaines notions qui maîtrise avec son staff. Donc, les mots directs, les mots, on va dire.
Les mots importants.
Football. Donc, les mots simples et efficaces.
Parle-nous des ambitions du club cette saison. On le disait, il n'y aura pas de Coupe d'Europe, malheureusement, pour le LOSC. Alors que la saison dernière, le club a tout de même atteint les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le top 5, c'est clairement l'objectif affiché?
On se doit d'être ambitieux, bien sûr, on se doit d'être ambitieux. Après, on n'en a pas discuté forcément avec tout le monde pour avoir les ambitions claires et nettes. Mais une chose est sûre, c'est qu'on veut gagner tous les matchs. On va se battre pour essayer de rivaliser déjà avec les équipes de haut tableau. Et voilà, quadriller un petit peu le championnat avec des objectifs, je pense, à court, moyen et long terme.
Et puis sur le plan personnel, tu as aussi des objectifs. Je rappelle que tu as découvert la sélection algérienne récemment, puisque tu as eu une sélection face à l'Iran. C'était ta première sélection à 27 ans. L'Algérie, malheureusement, ne disputera pas la Coupe du Monde. En revanche, j'imagine que pour toi, t'installer dans cette équipe avec le sélectionneur Jamel Belmadi, c'est vraiment un objectif.
Bien sûr, c'est clair. Je pense que ça serait la suite de ma carrière. Je dirais pas la suite logique, j'aurais pas cette prétention, mais la suite de ma carrière, là, dans la continuité. J'ai signé dans un grand club français, un très grand club français même, et je suis encore en Ligue 1. J'espère déjà avoir le maximum de temps de jeu avec mon équipe, avoir des résultats. Mais si, bien évidemment, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux pour nous et pour moi, bien évidemment que j'ai envie de m'installer en sélection. J'ai découvert ça, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai été très bien accueilli aussi là-bas par tout le monde. Et puis c'est une sélection ambitieuse en Afrique, une des meilleures aussi sur le continent, qui a fait pas mal de bons résultats. Malheureusement, il n'y a pas la Coupe du Monde, mais il y a la CAN et puis le monde, et il y aura d'autres échéances, d'autres matchs importants. Donc j'aimerais vraiment faire partie de cette aventure-là.
Et ça se comprend. Merci Hakim Zadatka d'avoir été avec nous sur RMC. Je rappelle que Lille démarrera son championnat à domicile contre Auxerre avant de se déplacer à Nantes et de recevoir le PSG dès la troisième journée. Donc il faudra être bon dès le début de saison. Merci Hakim. À bientôt.
Merci à vous. À bientôt. Au revoir.
18h42 sur RMC, Stephen Hakim Zadatka, visage de ce LOSC nouvelle génération. Il y a ce titre de champion de France qui doit être digéré désormais. T'es confiant pour le LOSC sur la saison qui vient?
J'ai l'impression qu'on part sur une nouvelle ère du côté de Lille avec quelques restrictions budgétaires. Ils perdent du lourd. Botman, Renato Sanchez qui va vraisemblablement partir soit à Paris Saint-Germain, soit à Milan. Moins de clinquants, l'image des deux garçons de Clermont, Zadatka et Mohamed Bayo.
Un recrutement très francophone.
Exactement. Rémi Cabella, Jonas Martin. Moi, il y a un garçon que j'attends, qui a été très bon la semaine dernière, mais qui a plongé un petit peu en fin de saison, c'est Jonathan David, ouais, qui doit être le pilier de cette équipe-là.
Le Bayo David, c'est pas mal sur le papier.
Ouais, c'est très bien, mais Jonathan David, sa troisième saison maintenant, la première, c'était la découverte, la saison dernière, c'était, il a été bon, mais pas consistant sur la saison entière. Cette année, Jonathan David, il doit se battre avec Mbappé, avec Wissam Ben Yedder, comme il s'est battu l'année dernière, mais il doit faire péter la barre des 20 buts en Ligue 1, Jonathan David. Et, curieux aussi de voir Paulo Fonseca, qui nous vend depuis son arrivée un football ouvert, d'attaque, de transition, ce que nous avait vendu Peter Boss aussi un petit peu à Lyon. On va voir s'il va être capable de l'assumer et de le mettre en place avec son effectif là. Mais Paulo Fonseca, c'est très bien, ça a des références, ouais. A coaché la Roma, donc très curieux de suivre cette équipe de Lille qui a terminé 10e la saison dernière. C'est quand même une énorme contre-performance et qui, je pense, aimerait bien retrouver les strapontins européens, mais ça va être compliqué parce qu'il y a du monde.
Tiens, parlons-en avec Paul, supporter lillois au 32-16. Salut Paul.
Salut Benoît, salut Stephen.
Salut Paulo.
Alors, comment t'es dans quel état d'esprit toi avant cette nouvelle saison? Est-ce que le recrutement te plaît déjà?
Ah, écoute, moi, je suis très enthousiaste. Je suis très enthousiaste parce que déjà, il y a eu un renouvellement qui était nécessaire. L'année dernière, on était tous très contents de garder Botman, Bourak, etc. Mais c'était plus le cœur qui parlait après le titre que la raison. La raison voulait qu'il y ait un gros renouvellement. Bon, bah là, du coup, il est fait cette année. Et comme vous dites, je trouve qu'il y a un regroupement assez intelligent avec des gens qui connaissent quand même plutôt bien la Ligue 1. Des gens qui sont, enfin, des joueurs qui sont plutôt des cadres comme Cabella ou comme Martin. Il y a aussi des jeunes vraiment pétris de talent comme Wang Bayo. Et surtout, il y a la grosse différence, c'est le coach. C'est que là, on va enfin couper avec Eder Gourvennec, qui était catastrophique au niveau du jeu et au niveau de l'envie qui était mise sur le terrain.
L'air qui n'a pas duré très longtemps. Hein, bah, petit air.
Dieu merci, elle a déjà duré trop longtemps pour les supporters.
Non, vous êtes dur.
Ouais, c'était pas évident de récupérer un effectif champion de France comme ça et de digérer tout ça, Paul.
Non, mais j'ai jamais été un grand fan de Gourvennec. Je le disais dès le début, je faisais partie de ses supporters qui étaient très critiques. Ouais. Et je pense qu'avec ce qu'il avait, il aurait pu faire mieux. Mais bon, bref, il est parti. On va pas lui continuer à lui taper dessus. Là, c'est Paulo Fonseca qui est là avec une idée de jeu, une identité de jeu qui moi, me séduit amplement. Et je pense qu'il a quand même eu son mot à dire dans le recrutement. Donc si les joueurs sont là, c'est qu'il les a validés. Et moi, pour le coup, je lui fais vraiment confiance.
Ok. Et en un mot, tu vises quel objectif? Top 5 pour Lille?
Top 5 et retrouver la Ligue Europa.
Ok.
Moi, c'est une compétition que j'aime beaucoup, la Ligue Europa, et c'est là où on voit vraiment le niveau des clubs européens.
Ok.
Donc pourquoi pas le top 5 avec une bonne qualification pour la Ligue Europa.
Polo, tu feras 7e, je suis désolé de te le dire.
Pourquoi tu dis ça? C'est pas très sympa. Bon, non, Paul, garde espoir, t'inquiète pas, et tu pourras rappeler quand tu veux au 32-16 pour reparler du LOSC.
5e, Paris Saint-Germain.
Mais il y a du monde.
Lyon, oui. Monaco, oui. Rennes, Olympique de Marseille, ça fait déjà 5.
Il y a Lens qui est là aussi. Ah ouais. Il y a des belles équipes.
L'US-Orléans.
C'était un problème. Tu veux me chercher là, c'est ça? L'US-Orléans, favori national.
Ça a recruté, ça a bien recruté.
Là, on est lancé sur une remontada, mon vieux là.
C'est-à-dire,
dans deux ans, l'US-Orléans est en Ligue 1.
Avec 18h46 à la présidence.
18h46, on est le 26 juillet, c'est annoncé. Ok.
US-Orléans en Ligue 1 en 2024-2025.
Ligue 2 dans un an.
Oui.
Et après, on verra.
D'accord.
Ça marche?
T'es ambitieux, mon grand.
Ah, bah écoute, il faut de l'ambition dans la vie.
T'as raison.
18h46, on revient dans un instant pour le Mercato Show. À tout de suite.
RMC Intégral Sport. Benoît Boutron.
18h49 sur RMC. Il est là, il est très en forme. Stephen Brun, il vous accompagne jusqu'à 20h. Stephen?
Oui.
Attention, dans 10 minutes, hein. Paris 2024, t'as préparé tes questions pour Michael Aloisio.
Comment je dois faire pour avoir des places pour aller voir Teddy Riner, il va tout nous expliquer.
Exactement, Teddy Riner,
le tir à l'arc,
Kevin Mayer,
voilà, exactement.
Voilà, tous les autres.
Ce que vous avez envie de voir.
Voilà, Clarisse Agbegnénou.
Exactement, Clarisse Agbegnénou.
L'équipe de France basket.
Romain Cannon, Enzo Lefort, voilà.
Vas-y, tu peux.
Isaura Tibus,
encore. Léon Marchand.
Voilà. Léon Marchand, la natation, c'est important.
Il y a des beaux rendez-vous, hein, évidemment. Bon, on vous dira tout sur la billetterie, le calendrier des épreuves, etc. 18h50, le Mercato Show.
C'est combien? 30 000. Attends, je vais te le marcher.
RMC, le Mercato Show. Le Mercato Show.
Moi, je laisse tomber. Fais-lui, c'est 30 000. C'est un con.
Ah, ça, c'est la meilleure période. La meilleure phrase, c'est celle-là.
Laisse tomber. Fais-lui, 30 000, c'est un con.
Le Mercato Show avec Julien Boubnov ce soir encore. Salut, Julien.
Salut, Benoît. Salut, Stephen.
Salut, Julien. Bon, on l'attendait depuis plusieurs jours. C'est officiel. Hein. Ça y est, nouvelle recrue au Paris Saint-Germain. Signature de Nordi Mukiele. Hein.
Ouais, Christophe Galtier avait dit qu'une recrue arriverait peut-être le temps qu'il rentre du Japon. Et bah, c'est fait. C'est officiel depuis 1h30 maintenant. Nordi Mukiele est un joueur du PSG. Il a bien signé son contrat ce matin à la Factory pour une durée de 5 ans jusqu'en 2027. Donc le PSG tient enfin la doublure d'Achraf Hakimi.
Tout à fait, la doublure d'Hakimi. Stephen, joueur polyvalent qui peut jouer dans cette fameuse défense à 3 en tant qu'axial droit à la place de Sergio Ramos a priori, ou alors un peu plus haut à la place d'Hakimi.
Oui, ça fait 3 jours qu'on dit que c'est très très bonne recrue.
On n'arrête pas de dire que c'est une bonne recrue. Parlons de lui, son cas personnel. C'est aussi un step qui passe,
ah, oui. Ah oui, c'est un step qui passe.
Et un pas en avant vers l'équipe de France, peut-être.
J'allais dire, éventuellement, pour se montrer auprès de Didier Deschamps, mais là, il reste peu de temps quand même.
Et pourquoi pas.
Mais moi, dans les propos de Christophe Galtier, doublure d'Hakimi, j'ai plus compris que Christophe Galtier, il comptait peut-être sur lui, sur la défense à 3, dans l'axe. On a vu Sergio Ramos, finalement, t'es pas à l'abri que Sergio Ramos, il fasse une rechute au mollet, ou il puisse pas jouer. Là, il a fait la prépa correcte, même si je l'ai pas trouvé très bon, Sergio Ramos.
Ah, en tout cas,
au moins, il joue.
Voilà.
C'est déjà un bonus par rapport à la saison d'après. Mais t'as trop de fragilité physique. Tu peux pas tirer sur la corde sur Marquinhos. Rappelez-vous l'année dernière, Marquinhos, il a joué quasiment tous les matchs et au bout d'un moment, il était rincé. Donc là, c'est bien d'avoir des mecs.
Là, je dis attention. Parce que la saison qui vient est particulière. Elle est coupée en deux. Il y a la Coupe du Monde au mois de novembre. Oui. Et surtout, conséquence directe, il y aura des matchs de Ligue des Champions quasiment toutes les semaines dès que le mois de septembre aura démarré. Hein.
Exactement.
Donc là, ça va être un match tous les trois jours pour le PSG.
Et ceux qui ne sont pas internationaux, il va falloir aussi les occuper, ceux qui ne partent pas à la Coupe du Monde.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de matchs
Non, mais c'était pour Sergio Ramos, parce que lui, il va pas être avec l'Espagne. Donc il va falloir occuper ces mecs-là au camp des loges pour qu'ils gardent un rythme et tout ça. Donc,
c'est vrai.
Pas facile cette saison.
Pas facile. On parle encore du PSG. Il y a ce fameux groupe d'indésirables, hein. Julian, est-ce qu'on en sait plus? Est-ce que certains joueurs, ça y est, ont trouvé une porte de sortie?
Alors, il y avait Mauro Icardi et Julian Draxler. On le sait, ils ne faisaient pas partie de la tournée au Japon et Luis Campos cherche à s'en séparer. Alors, pour Icardi, plusieurs médias allemands avaient annoncé un intérêt du Borussia Dortmund pour pallier l'absence de Sébastien Haller. Mais selon nos informations, ce n'est pas le cas parce que Dortmund a un petit budget et les 7,5 millions annuels de l'Argentin sont quand même un gros problème. Et concernant Julian Draxler, eh ben, ce serait peut-être Newcastle.
Il y a un problème avec l'argent aussi pour Julian Draxler.
Aussi, mais ce serait peut-être Newcastle qui pourrait bientôt entamer des négociations pour faire venir l'international allemand et Paris en demande entre 20 et 30 millions.
Après, les nouveaux investisseurs peuvent
Newcastle
le salaire de Draxler.
Newcastle, ils peuvent envoyer son... Mais ils sont tirés une balle dans le pied en fait, hein, envoyer de l'oseille comme ça à tout va à des garçons qui aujourd'hui, ben c'est très compliqué de faire partir. Maintenant Mauro Icardi, moi j'ai envie de lui dire qu'est-ce que tu veux faire bonhomme dans ta vie, est-ce que tu as envie de jouer au foot et même à Lewin Kurzawa ou à, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Vous avez passé 2 ans, vous avez pas joué, c'est sûr que quand vous vous connectez sur banquepopulaire.com, il est bien le compte courant.
Donc vraiment à la banque.
Moi je sais pas, mais à un moment donné c'est quoi votre passion? C'est le foot, non? Vous avez pas envie de jouer, vous avez pas envie d'être titulaire, vous avez pas envie de mettre des buts parce que c'est long. Qu'on le fasse une année ou une année et demie, à la rigueur, je veux bien. Mais à un moment donné, vous êtes joueur de football, hein. Vous n'êtes pas banquier, non, vous n'êtes pas gestionnaire de patrimoine.
Ils ne sont pas vieux encore, les deux.
Ouais, oui.
Donc, à un moment, il faut rejouer au foot. Ouais.
Voilà.
C'est important. 18h54 sur RMC. La grosse info de la journée, elle concerne l'AS Monaco, Julian, qui pourrait voir Benoît Badiachil, un pur produit du club, quitter le club pour un montant assez dingue. Hein.
Ouais, effectivement, Benoît, selon nos confrères de l'équipe, Badiachil serait la priorité du FC Séville. Donc le directeur sportif Monchi le suit depuis un certain temps pour renforcer sa défense et encore plus maintenant depuis le plus que départ probable, on va dire, de Jules Koundé. Ça fait 2 ans que Badiachil est annoncé sur le départ, donc peut-être que ça se fera cet été.
Et vas-y, annonce-nous le montant.
Alors peut-être
annoncé.
Que ça va vous étonner, chacun se fera son opinion.
C'est pas 30 000.
Je vais demander à Stephen ce qu'il en pense après, mais les premiers contacts ont déjà été établis et l'AS Monaco ne discutera pas en dessous de 50 millions d'euros. De son côté, le joueur a en tout cas fait savoir qu'il suivra la décision de ses dirigeants.
Après, c'est un joueur qui est identifié depuis des années.
C'est fort. Hein.
C'est un joueur très jeune, ouais. Mais qui a déjà beaucoup d'expérience
exactement.
En Ligue 1.
Il a joué énormément de matchs de Ligue 1, de Coupe d'Europe. Il a quel âge, lui, 21 ans,
119 matchs pro avec l'AS.
C'est un bon joueur. C'est un
120 matchs pro à 21 ans.
C'est beau. Avec donc, moi, je peux dire que les 50 millions, je suis pas choqué. Je suis pas choqué, sachant que Badiachil, d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, c'est un garçon qui est plutôt respectueux, qui va jamais partir au clash pour quitter absolument l'AS Monaco parce qu'il a déjà eu des offres par le passé. C'est un bon joueur, c'est solide. C'est très solide. Donc, après, s'il reste au club, très bien pour lui, très bien pour Monaco. S'il part, Monaco prendra 50.
C'est le vrai dilemme. Est-ce que tu le vends maintenant à 50 ou est-ce que tu attends encore un an?
Christophe Dilemme.
Exactement. Bon, c'est pas mes meilleures références musicales. On l'embrasse quand même. 18h55, parlons du voisin azuréen de l'AS Monaco, l'OGC Nice. Ça y est, on avance un peu sur le dossier du gardien de but. Il y a eu plusieurs noms qui ont été évoqués. Là, il y a peut-être une piste qui se réchauffe vraiment.
Ouais, c'est Kasper Schmeichel qui pourrait bientôt arriver sur la Côte d'Azur. Il a même donné son accord à l'OGC Nice. Lucien Favre cherchait un gardien d'expérience. Et après l'échec dans le dossier Yann Sommer, ce serait quand même un joli coup pour les Aiglons. Ah oui. Mais maintenant, faut convaincre Leicester, qui est prêt à écouter les offres. Mais ils doivent d'abord lui trouver un gardien remplaçant.
Franchement, Kasper Schmeichel en Ligue 1, ce serait beau. Hein.
Ouais. Non, c'est un très bon gardien. Après, ça relègue une nouvelle fois en tant que gardien numéro 2, le gardien prêté par le PSG.
Ouais.
Il est prêté encore. Ils ont combien de gardiens, non? Non, ils l'ont rendu. Ah oui, non, parce qu'à l'époque, ils avaient 14 gardiens le Paris Saint-Germain. Non, Kasper Schmeichel, c'est très bien. C'est très bien.
Gardien d'expérience.
Connaît le métier, a été fantastique en première ligue.
Ah oui.
Non, c'est une magnifique recrue, Kasper Schmeichel.
Et justement.
Ça fera 2 Kasper dans l'équipe.
Ouais.
J'espère qu'ils seront un peu plus visibles que.
Avec Kasper Dolberg et Kasper Schmeichel. Tu voulais nous parler d'un latéral gauche aussi.
Qui a embauché Ghostbuster.
Ouais, voilà, excellent. Bravo. Il est là, Stephen. Il est en forme, il vous régale, évidemment. Nice qui cherche aussi un arrière gauche et qui s'intéresse à un joueur du PSG, justement. Stephen en parlait.
Lévin Kurzawa pourrait peut-être trouver une porte de sortie. qu'il y a l'OGC Nice qui cherche à mettre Melvin Barr en concurrence. L'ancien Monégasque n'avait pas joué une seule minute avec le PSG la saison dernière. Il n'a pas fait le voyage au Japon. Donc, a priori, la direction du PSG ne sera pas forcément opposée à un départ.
Ouais, voilà. C'est bien.
Ouais, comment ça va?
Pour lui, ça sera un très bon choix. Bah, ouais. Pour Nice, je pense que c'est une... Pour moi, Lévin Kozawa, ça n'a jamais été un mauvais joueur de football. Alors, il restera dans l'histoire comme le premier défenseur à avoir mis un triplé, je crois, en Champions League, Lévin Kozawa, mais ça, c'est un petit peu anecdotique. Mais moi, je le trouve pas si catastrophique. Alors, il a une mauvaise réputation aujourd'hui parce qu'il joue pas, il prend un salaire mirobolant.
C'est jamais adapté au contexte parisien.
En fait. Mais Lévin Kozawa, en bonne santé, il a été international. Melvin Barr est fantastique la saison dernière avec Nice. Quand vous avez Kozawa et Melvin Barr, vous pouvez voyager. Hein. Mais attention à Kozawa, moi, je suis pas si catégorie sur lui. Pour moi, c'est un bon joueur de foot.
Donc, bon choix pour Nice et pour le joueur, si ça se fait. Ok. Merci, Julien. Toutes les infos transferts à retrouver, évidemment, sur rmcsport.fr. 18h57. On revient dans un instant. On y va. Allez-y, appelez-nous au 3216 ou laissez-nous des messages sur le direct studio. Si vous avez des questions en vue de Paris 2024, la cérémonie d'ouverture, c'est dans 2 ans, jour pour jour. On va en parler avec le porte-parole, justement, de Paris 2024, Mickaël Aloisio. À tout de suite sur RMC.
RMC. Intégral Sport.